Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel, dans l'émission Dialogue non violent, dans laquelle je vous propose d'aller à la rencontre d'hommes qui ont incarné la non-violence. Après Gandhi et Martin Luther King, j'avais envie de découvrir comment Nelson Mandela, grand homme politique sud-africain, a pu mettre en acte les principes de Gandhi dans un pays déchiré par des luttes racistes. Pour comprendre l'histoire et les intentions de Nelson Mandela, il me paraît important de resituer le contexte. L'Afrique du Sud est en effet un territoire riche de diverses ethnies africaines, mais aussi de blancs d'origine franco-germano-néerlandaise, implantés définitivement depuis le XVIIe siècle. Anciens fermiers, appelés Boers, ils se font nommer ensuite Afrikaners et parlent un dérivé du néerlandais. Colonisés ensuite par l'Empire britannique au XIXe siècle, le territoire, déjà déchiré par des conflits ethniques, se mobilise contre l'envahisseur, chacun revendiquant sa souveraineté. La découverte de mines d'or et de diamants justifie alors des massacres sans nom. C'est dans ce contexte, où chacun revendique sa place, que Nelson Mandela naît à l'aube du XXe siècle.
C'est surprenant, mais qui pouvait dire ? Affirmer même que le 18 juillet 1918, le jour de la naissance de celui qui deviendra pour tout un peuple, mais aussi pour les pays du monde entier, le symbole de la liberté, oui, qui pouvait dire que le surnom donné par le père de Mandela et le prénom coutumier qui lui est attribué à l'âge de 16 ans lors d'un rite initiatique, que ce surnom et ce prénom sonneraient des années plus tard comme le signe de la destinée. Personne, je crois. Pourtant, lorsqu'en juillet 1918, le 18 juillet, donc, Nelson Mandela vient au monde, son père le surnomme aussitôt Rolilala, ce qui signifie « celui qui créera des problèmes ». Et 16 années plus tard, lorsque la puissante tribu Xhosa, les Tembus à laquelle il appartient, le reconnaît homme par le rituel d'une cérémonie initiatique, le sorcier lui attribue le prénom de Dali Bunga. Dali Bunga, autrement dit, l'homme qui installe le nouveau pouvoir. C'est dire que le hasard, certains d'entre nous diront peut-être qu'il s'agissait alors d'un signe prémonitoire, avait déjà marqué la vie, et ce, dès son tout début, de Nelson Mandela.
On vient d'entendre un extrait de l'émission d'Eric Young sur France Inter, Pêcheur d'Histoire, émission du 29 août 1999 consacrée à Nelson Mandela. Comme on vient de l'entendre, Nelson Mandela appartient à une famille de conseillers royaux Tambou de l'ethnie Xhosa. Né en juillet 1918 à Mfezo, Rolihlahla recevra le prénom chrétien de Nelson de son institutrice à l'âge de 9 ans. Peu de temps après, son père meurt de la tuberculose. L'enfant est confié au régent du roi, ce qui lui vaudra de suivre des rites initiatiques de sa tribu Tambou à l'âge de 16 ans. Il est destiné à devenir à son tour conseiller du roi et il reçoit aussi une éducation occidentale à l'école. En 1939, il suit des études de droit dans la seule université qui accepte des Noirs et se destine à la carrière d'avocat. C'est à cette université qu'il découvre le nationalisme des Afrikaners, la minorité blanche. Il a 22 ans et il est renvoyé de l'université suite à un boycott organisé. Et malgré la possibilité d'y revenir, il décide de la quitter. De plus en plus révolté par ce qu'il voit, il veut défendre les faibles et déclassés. Il intègre alors un cabinet d'avocats, grâce à son ami Walter Sisulu. Et tout en travaillant, Nelson Mandela termine par correspondance sa licence, puis commence des études de droit, où il rencontre de nombreux futurs militants anti-apartheid. Jeune militant à la Ligue de la Jeunesse, Il est très impressionné par la campagne non violente menée de 1946 à 1948 par la communauté indienne, héritière du Satyagraha de Gandhi. Dans son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, Mandela témoigne de son positionnement vis-à-vis de la non-violence, qui ne cessera d'évoluer et de s'adapter face à la réponse des autorités. Cette campagne est devenue un modèle pour le genre de manifestation que nous défendions à la Ligue de la Jeunesse. Elle avait donné un esprit de défi et de radicalisation aux gens. Elle a supprimé la peur de la prison. Il nous rappelait que la lutte pour la liberté ne consistait pas seulement à faire des discours, à tenir des meetings, à faire passer des résolutions et à envoyer des délégations. Il fallait aussi une organisation méticuleuse, des actions militantes de masse. We all suffer. When he spoke out against injustice, he spoke as from our mouths, with our words, with our longing for justice, with our strength. And we say that the only true tribute to him, when we resist in our hundreds, when we resist in our thousands, in our millions, then victory is certain. Amanla! Amanla! Mabuye! Africa! La campagne indienne faisait écho à la campagne de résistance passive de 1913, dans laquelle le Mahatma Gandhi, à la tête d'une foule d'Indiens, avait traversé la frontière entre le Natal et le Transvaal. C'était l'histoire. Cette dernière campagne s'était déroulée sous mes yeux. En 1944, Nelson Mandela intègre l'African National Congress, ANC, qui lutte contre la domination politique de la minorité blanche et contre la ségrégation raciale menée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid, politique de ségrégation raciale qui commence à être mise en place après la victoire électorale du Parti national, parti représentatif des Afrikaners, en mai 1948. Quand apparaissent des lois interdisant les mariages mixtes et les relations sexuelles entre blancs et non-blancs, l'ANC entreprend un effort décisif pour se transformer en une véritable organisation de masse. Cependant, les opinions concernant la non-violence ne sont pas unanimes. Mandela se rappelle dans son autobiographie. Certains défendaient la non-violence sur des bases purement morales, en affirmant qu'elle était moralement supérieure à toute autre méthode. Cette idée était fermement défendue par Manital Gandhi. Avec son comportement très doux, Manital Gandhi semblait la personnification même de la non-violence et il insistait pour que la campagne suive une voie identique à celle de son père en Inde. D'autres disaient que nous devions aborder la question non sous l'angle des principes, mais sur celui de la tactique et que nous devions utiliser la méthode qu'exigeaient les conditions. Si une méthode particulière nous permettait de vaincre l'ennemi, alors il fallait l'employer. Je partageais ce point de vue et je considérais la non-violence du modèle de Gandhi non comme un principe inviolable, mais comme une tactique à utiliser quand la situation l'exigeait. En 1952, Nelson Mandela est élu président de l'ANC. Il mène la campagne de désobéissance civile contre les lois considérées injustes, campagne qui culmine dans une manifestation du 6 avril 1952. Sur les 10 000 manifestants, 8 500 sont arrêtés, y compris Nelson Mandela. Il est condamné à 9 mois de prison, avec sursis, se voit interdire toute réunion et est placé en résidence surveillée chez lui. Il utilise cette situation pour organiser l'ANC en cellule clandestine. Face au durcissement des mesures du gouvernement, le discours de Mandela sur le recours à la violence va se radicaliser. Dès 1954, en effet, quand le gouvernement décide de détruire les habitations de Sophiatown et de déporter les Noirs dans des ghettos de Soweto, il proclame « Le temps de la résistance passive est terminé. La non-violence est une stratégie vaine. Elle ne renversera jamais une minorité blanche prête à maintenir son pouvoir à n'importe quel prix. La violence est la seule arme qui détruira l'apartheid. »
Les Africains exigent le droit de vote sur la base d'un homme, une voix. Et l'indépendance politique. Les Africains peuvent-ils s'épanouir dans le pays sans expulser les Européens ? Nous avons clairement dit que l'Afrique du Sud est un pays multiracial. Il y a de la place pour toutes les races du pays. Et si le gouvernement Vervoort n'accède pas à vos demandes, utiliserez-vous la violence ? Beaucoup pensent que c'est inutile et vain pour nous de parler paix et non-violence face à un gouvernement qui répond par des attaques sauvages contre un peuple désarmé et sans défense. On an unarmed and defenseless people.
Le 21 mars 1960, le célèbre massacre de Sharpeville. Sharpeville est un township ou un quartier pauvre et sous-équipé réservé aux non-blancs. Lors d'une manifestation du Congrès panafricain pacifiste contre l'extension aux femmes du passeport intérieur, que les hommes noirs sont obligés de porter constamment sur eux sous peine d'être arrêtés ou déportés, une soixantaine de policiers tirent sans sommation sur la foule. Il y a 69 morts et 180 blessés, dont des femmes et des enfants. La majorité des blessures par balle sont faites dans le dos, sur une foule en fuite et non armée. Les critiques internationales contre l'apartheid commencent à prendre de l'ampleur, mais le gouvernement fait la sourde oreille. Déclarant l'état d'urgence, il interdit l'ANC et le PAC, Congrès panafricain, emprisonne les dirigeants ou les assigne à résidence. Parmi eux, Albert Luthuli, président de l'ANC, et Nelson Mandela, qui brûlent leur passeport. Pourtant, l'un sera appelé à Oslo pour recevoir le prix Nobel de la paix la même année, pendant que le second basculera dans la clandestinité. Fois prochaine, avec Mandela dans ses années d'emprisonnement. Loin de se résigner, Madiba, autre nom de baptême de Mandela, va peu à peu transformer la lutte armée en tentative de réconciliation. À très bientôt donc sur Radio Grand Ciel, et d'ici là, portez-vous bien. Nangu nangu etilongweni.